Juliette Rangeval.
The arrival of Dominic Cummings in number 10 has been greeted by many as big news. But why?
Bonjour, le Parlement britannique est maintenant suspendu pour 5 semaines après de nouveaux votes négatifs pour le Premier ministre, de nouveaux revers pour Boris Johnson et son conseiller spécial Dominic Cummings, considéré comme l'architecte de sa stratégie d'un Brexit, quoi qu'il en coûte. Dominic Cummings, l'homme de Londres, un portrait signé Elliot Brachet.
Alors que les débats font rage à Westminster, dans les coulisses, un homme se tient dans un coin, impassible, scrutant attentivement la tempête qui gronde contre le gouvernement. C'est Dominic Cummings, le stratège en chef du 10 Downing Street. À 47 ans, il s'est chargé d'une mission, faire aboutir le Brexit coûte que coûte, le 31 octobre prochain. Peu connu du grand public, c'est lui, l'homme de l'ombre de Boris Johnson, celui qui a imaginé la suspension du Parlement pour 5 semaines, celui aussi qui a fait expulser 21 membres historiques du Parti conservateur.
C'est probablement la personne la plus influente au 10 Downing Street. Il a forgé sa réputation pendant la campagne pour le Brexit lors du référendum de 2016.
C'est là le moment charnière de sa carrière politique, assure Simon Usherwood, directeur d'un groupe de réflexion spécialisé sur le Brexit. Cummings l'écrit dans son blog. Cette campagne a commencé avec moi. Un vélo, un iPhone et c'est tout. Il mise alors sur une stratégie numérique qui portera ses fruits, plus $1,5 milliard de pubs déversés sur Internet à quelques jours du vote. Le savant fou du Brexit a d'ailleurs inspiré le scénariste James Graham dans le film Brexit.
La bataille pour la Grande-Bretagne commence maintenant. Si vous trouvez un électeur potentiel, frappez fort et s'il ne plie pas devant vos arguments, n'abandonnez pas, retournez-y et cognez encore et encore.
Des messages simples et efficaces. Voilà la stratégie de Cummings. Sur un bus qui sillonne l'Angleterre, il fait inscrire que le Royaume-Uni verse 350 millions de livres par semaine à l'Europe. Un slogan mensonger qui lui vaudra une convocation au Parlement. La méthode Cummings dérange. Son franc-parler et ses méthodes brutales pour imposer ses vues lui ont valu de nombreux ennemis au sein même des conservateurs. Certains Tories le décrivent comme un arriviste, voire un parasite. Lui se targue de ne pas être membre du parti, trop élitiste à son goût. Aujourd'hui, Cummings ferait régner sa loi au sein du 10 Downing Street, d'une main de fer selon le député libéral-démocrate Tom Brake.
C'est Dominic Cummings, quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions dramatiques, par exemple licencier quelqu'un et la faire sortir de Number 10 accompagné d'un policier armé. Ça c'est son style.
Un style qui fait couler de l'encre. Cummings dénote par son anticonformisme. T-shirt froissé, chemise débraillée. Cummings évite les micros mais tient un blog prolifique. Cet admirateur de Margaret Thatcher et de Bismarck, passionné de littérature russe, disserte à l'envi sur l'intelligence artificielle ou les blocages de l'administration, distillant une critique acerbe de l'establishment britannique. Simon Usherwood.
Pour lui, le Brexit n'est pas un objectif en soi. C'est le moyen de concrétiser des idées plus profondes. C'est plutôt un penseur libertarien, au sens où il aimerait reconstruire une société où l'État aurait moins de poids. C'est presque de l'anarchie. Il veut briser le système plutôt que de pousser pour une lente évolution. Je pense que pour lui, le Brexit offre l'opportunité d'un changement radical jamais vu au Royaume-Uni.
Après les revers essuyés par Johnson cette semaine à la Chambre des communes, le Télégraphe souligne que la relation entre le Premier ministre et Cummings se tend. De là à ce que Johnson se sépare d'un cerveau qu'il admire tant, rien n'est moins sûr.
Les élèves français ont repris le chemin de l'école, retrouvé leur salle de classe, leurs professeurs, des enseignants motivés qui aiment leur métier selon une enquête de l'OCDE datant de 2018, mais qui s'estiment déconsidérés, mal payés. Alors quand le ministère français de l'Éducation annonce qu'il va augmenter de 300 euros par an la rémunération des enseignants, beaucoup soulignent que le compte n'y est pas, surtout si l'on compare avec d'autres pays européens comme l'Allemagne, où un professeur débutant démarre sa carrière en gagnant plus du double d'un Français. Depuis Berlin, le reportage de Julien Méchaussy.
C'est la pause de midi dans le collège-lycée Schadhof, dans le sud de Berlin.
Boris Siebenhörl y enseigne depuis une petite dizaine d'années, professeur de sciences politiques et d'histoire-géographie. Ses semaines sont bien remplies, avec bien souvent 50 heures de travail.
J'ai 26 heures de cours par semaine, c'est dans la moyenne pour un poste à temps plein. À ça s'ajoutent 3 autres heures pour effectuer des remplacements quand des collègues sont malades, par exemple. Je dois en plus préparer et participer aux réunions parents-professeurs, à des conférences, des excursions, etc. J'arrive en tout à 35 heures par semaine, auxquelles viennent s'ajouter les heures de préparation de cours et de surveillance.
26 heures de cours par semaine contre 18 heures en moyenne en France. Pourtant, Boris est un professeur satisfait de sa situation. Il perçoit environ 3000 euros net par mois.
Cette rémunération montre que notre travail est important, qu'il est estimé à sa juste valeur. Cette reconnaissance via un salaire convenable fait qu'on veut s'engager pour les élèves, tout donner lors des cours. Avec un salaire comme en France, je me dirais à la fin du mois, en regardant ma fiche de paie, tout ça pour ça, je suis convaincu que ma motivation baisserait au fil des ans.
Et Teresa, 14 ans, élève de Boris Siebenhörl, apprécie d'avoir des professeurs motivés.
Nous devons travailler cette année sur un exposé qui demande énormément de travail. Chaque élève choisit un professeur qui sera son tuteur pour cet exercice. Il est là pour nous accompagner, nous donner des conseils et enfin nous faire passer un examen. Pour les professeurs, cela fait beaucoup de travail en plus. Mais Monsieur Siebenhörl nous a bien dit qu'il acceptait volontiers d'être tuteur, alors qu'il n'est pas obligé. Et ça montre qu'il est motivé et travaille bien plus que ce qui lui est demandé.
Du côté de la fédération, du corps enseignant, son président, qui est aussi directeur d'établissement en Bavière, Heinz-Peter Meindinger, juge cette rémunération satisfaisante et nécessaire.
Nous faisons face à une forte concurrence entre le service public et le secteur privé. Encore plus en ce moment avec une économie allemande qui se porte très bien, avec des salaires élevés pour les personnes qualifiées. Il est donc vital que le service public puisse attirer des gens compétents et motivés à la sortie de l'université. Et la rémunération est évidemment un facteur décisif.
Pourtant, tout n'est pas parfait. Heinz-Peter Meindinger déplore l'absence de perspective pour les professeurs, car si la rémunération en début de carrière est satisfaisante, elle n'augmente pratiquement pas jusqu'au départ à la retraite.
Si on compare les rémunérations avec les autres pays européens, les professeurs allemands profitent des meilleurs salaires en début de carrière. Mais cela s'inverse en fin de carrière. Les Allemands ne font plus partie du haut du classement. Et c'est là que le bât blesse. À l'école primaire, par exemple, 80% des instituteurs ne verront jamais leur salaire augmenter. Et oui, cela peut entraîner une baisse de motivation.
Malgré une charge de travail plus lourde et l'absence de perspective d'une meilleure rémunération, Boris Siebenhörl est un professeur heureux, comme plus des trois quarts de ses collègues, selon une étude récente, alors qu'en France, les enseignants sont 75% à juger leur rémunération insuffisante.
En Pologne, les profs gagnent autour de 700 euros par mois. C'est très en dessous du salaire moyen. Résultat, ils se sont mis en grève illimitée au printemps dernier pour être mieux payés. Ils ont finalement obtenu une augmentation de 10% quand ils réclamaient trois fois plus. Frustrés, des milliers de professeurs ont depuis démissionné des écoles publiques, laissant beaucoup de postes vacants. Reportage de Thomas Giraudot à Varsovie.
Ces dernières années, Katarzyna Lenarczyk gagnait à peine plus de 600 euros par mois. Pour pouvoir vivre à Varsovie, cette professeure d'anglais et mère de deux enfants ne pouvait compter que sur ses heures supplémentaires et sur le salaire de son mari. Sa frustration et son maigre revenu comparé à sa charge de travail l'ont poussée à faire grève en avril dernier. Les trois quarts des écoles du pays participent au mouvement durant trois semaines. Mais les enseignants ne font pas plier le gouvernement, alors Katarzyna Lenarczyk range ses stylos et ses feutres.
J'ai juste senti que ça n'avait plus de sens de continuer à travailler dans le public. Le gouvernement a montré un manque absolu de respect envers les enseignants. Ils ne voulaient pas nous parler, ils n'échangeaient aucun argument. C'était comme une insulte. J'ai réalisé que la situation n'allait pas évoluer, qu'elle allait rester bloquée. Je vis dans une grande ville, à Varsovie, où comme professeur de langue, j'ai d'autres options que d'enseigner dans des écoles publiques.
Katarzyna Lenarczyk remet sa démission avant l'été, pense se reposer quelques mois chez elle, mais elle obtient finalement un poste de professeur d'anglais dans une école privée.
Cette école a rempli toutes mes attentes. Dans ma classe, aujourd'hui, je n'ai que 12 élèves, alors qu'avant, dans le lycée public où j'enseignais, il y en en avait au moins 30 par classe. Je voulais aussi que l'école soit indépendante afin que je puisse négocier mon salaire. Et j'ai ainsi obtenu l'augmentation de 30% que nous, professeurs, réclamions durant la grève.
Katarzyna Lenarczyk et des milliers de ses collègues ont quitté massivement les écoles publiques cet été pour gagner mieux leur vie, améliorer leurs conditions de travail, aussi pour ne pas subir les conséquences d'une réforme de l'éducation. Entrée en vigueur en cette rentrée pour faire quelques économies, elle supprime le collège pour rallonger en compensation l'école primaire et le lycée. Joanna Gospodarczyk dirige le bureau chargé de l'éducation à la mairie de Varsovie.
La réforme a été réalisée de façon précipitée. La suppression des collèges est injustifiée et incompréhensible pour beaucoup de personnes. Ces établissements fonctionnaient très bien. De plus, les nouveaux programmes laissent moins d'autonomie aux professeurs. Ils sont très stricts. Cela ressemble un peu à l'instruction du 19e siècle, quand il y avait des cours magistraux dans les écoles et pas qu'à l'université. Il faut apprendre par cœur. Il y a moins de place pour la discussion, la réflexion.
Nous avons demandé une interview au ministère de l'Éducation pour comprendre les raisons de cette réforme et ce qu'il comptait faire pour combler les postes vacants dans le public. Demande restée sans réponse. À Varsovie, d'après les derniers chiffres de Joanna Gospodarczyk, il manque 1000 enseignants à temps plein, près de 10 000 dans tout le pays.
Jusqu'à maintenant, on manquait surtout de professeurs spécialisés en informatique, en langues étrangères, parce que ces personnes pouvaient trouver plus facilement du travail ailleurs à Varsovie. Cette année, on manque de professeurs dans toutes les matières, même pour le catéchisme. Ce phénomène de départ des jeunes enseignants du public après 3 ou 4 ans d'exercice existait déjà. Auparavant, on arrivait à combler le manque. Mais là, même avec l'augmentation des salaires pour les nouveaux professeurs accordés par le maire de Varsovie, ça ne suffit pas.
La mairie de Varsovie offre environ 60 euros de plus mensuel aux nouveaux enseignants. Pas de quoi régler la crise des vocations qui va, à moyen terme, aggraver la pénurie de professeurs.
Je voulais être enseignante. Mais maintenant, je sais pas.
À l'université de Varsovie, Adriana Stepien étudie la philologie romane, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, la philosophie française. Elle voulait instruire cette langue dans une école publique, mais ça, c'était avant la grève des enseignants du printemps et son premier stage en maternelle.
C'était un groupe de 25 enfants à l'âge de 5 ans. C'est l'enfer. Déjà, une leçon de 30 minutes, au bout de 15 minutes, ils s'ennuyaient. Et moi, j'avais du mal à les calmer et travailler avec eux. Les enseignantes qui étaient là, ils m'aidaient pas beaucoup. D'habitude, elles partaient quelque part, je sais pas où. Et moi, j'étais toute seule avec les enfants. Donc oui, c'était difficile. Donc, je pourrais être enseignante plutôt dans une école privée ou une école de langue, parce que c'est un métier qui est vraiment très mal payé en Pologne. Là, je pars des écoles publiques. C'est bien d'avoir les patients, mais ça ne suffit pas. Ouais.
Dans la promotion d'Adriana Stepien, une quinzaine d'étudiants souhaitaient devenir enseignants en entrant à l'université. Aujourd'hui, selon elle, ils ne sont plus que 2 ou 3.
En Espagne, la date de la rentrée des classes varie selon les régions. Madrid est déjà rentrée, le reste du pays retrouve le chemin de l'école cette semaine et c'est une rentrée difficile qui attend les professeurs. Manque de reconnaissance, manque de moyens, classes surchargées, les explications de Diane Cambon.
C'est devenu une tradition depuis la crise économique de 2008. À la rentrée, les professeurs espagnols revêtent leur t-shirt vert sur lequel on peut lire le message suivant « Sauver l'école publique pour tous ». Le corps enseignant ne s'est jamais remis des coupes budgétaires adoptées lors de la crise. En 10 ans, les investissements ont chuté de 7 milliards d'euros. Dans les collèges et lycées, ce manque de moyens est toujours visible. Les enseignants moins nombreux, car moins de recrutement, doivent courir de classe en classe. La majorité enseigne une autre matière que sa spécialité. Les mathématiques, s'il est prof de sciences physiques, la géographie, s'il enseigne la littérature. Pour le même salaire, depuis 10 ans, le professeur doit enchaîner parfois jusqu'à 25 heures de classe par semaine. Pour les contractuels, à chaque rentrée plus nombreux, il leur faut souvent aller travailler dans plusieurs établissements. Selon les syndicats, il manquerait 25 000 postes de professeurs. Enfin, ce sont les installations mêmes qui font défaut par endroit. 50 000 élèves vont faire leur rentrée scolaire dans des préfabriqués de chantier. Des conditions difficiles d'enseignement qui rendent peu alléchant ce métier, chaque fois moins reconnu au sein de la société. De moins en moins de jeunes sont en effet attirés par l'enseignement, ce qui pose un sérieux problème de renouvellement de génération. Ces 10 dernières années, les professeurs de plus de 50 ans sont passés de 7 à 36%.
En Roumanie, les enseignants ont été augmentés pour la rentrée, mais tout cela ne cache pas les difficultés du système éducatif, Benjamin Ribou.
L'augmentation de 25% du salaire des enseignants roumains d'ici à 2022 est a priori une bonne nouvelle. Un professeur débutant roumain devrait désormais gagner 600 euros par mois. Il y a du mieux donc, même si le pays reste l'un des pays qui paye le moins ses enseignants. Seule la Bulgarie fait moins bien. Mais cette hausse, promise par le gouvernement pour revaloriser la profession, ne masque pas les problèmes du secteur éducatif. D'abord, des dizaines d'écoles primaires et maternelles ferment chaque année un peu partout dans le pays. Moins d'écoles, car plus d'argent pour les faire fonctionner, mais aussi parce qu'il y a moins d'élèves partis rejoindre leurs parents à l'ouest. Ensuite, les écoles restantes peinent à recruter du personnel qualifié. Du coup, on improvise. De nombreux instituteurs ou professeurs, surtout en milieu rural, n'ont pas les diplômes requis et font le travail, faute de mieux. Enfin, les problèmes matériels subsistent. Locaux vétustes, absence de chauffage, mais aussi de toilettes décentes sont le quotidien des élèves et des professeurs dans le public en Roumanie, avec des conséquences parfois dramatiques. En avril dernier, un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans la fosse septique de sa maternelle. Le gouvernement avait pourtant promis de s'occuper du problème des sanitaires à l'école. Près de 2500 établissements sont concernés.
Cela fait maintenant un peu plus d'un an que le Règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, est entré en vigueur. C'est une législation européenne protectrice, souvent citée en exemple. Si de plus en plus de citoyens veulent mieux protéger leur vie privée, comment les entreprises, elles, mettent-elles en œuvre ce règlement ? On fait le point en Belgique avec nos confrères et consoeurs de la RTBF, un reportage d'Alice de Baptiste.
Antipode, bonjour, coup de midage.
Nom, numéro de GSM, copie de passeport ou information médicale, l'agence de voyage Antipode traite de nombreuses données à caractère personnel tous les jours. Avec l'entrée en vigueur du RGPD, ces informations ne peuvent plus être traitées de la même manière. Marine Lebrun dirige l'agence.
Un fournisseur qui me dit, écoute, donne-moi le numéro de téléphone de ton client. Je peux plus. Je dois d'abord avoir l'accord de mon client pour transmettre ce numéro de téléphone.
C'est donc toute la gestion des données au sein de l'agence qui a été repensée.
Nous avons dû mettre en place des structures internes pour traiter ces données, pour que nous puissions détruire certaines données dès que nous n'en avions plus besoin.
Les informations que conserve cette agence sont, elles, soigneusement protégées, enfermées à double tour au sous-sol. Si cette agence s'est adaptée aux obligations imposées par le RGPD, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Nathalie Ragueno est responsable de la protection des données à la Fédération des entreprises de Belgique.
C'est tellement complexe que c'est très difficile de se mettre en conformité en une année. En plus, c'est un processus permanent et puis c'est un processus qui coûte cher.
Pour faire face à cette complexité, les grandes entreprises belges se préparent depuis 3 ans, mais certaines PME sont encore à la traîne.
On pourrait dire que 75% des entreprises ont déjà entendu parler et ont fait quelque chose pour se mettre en conformité. Il y en a encore beaucoup qui sont en train de ramer, de se poser des questions sur la manière dont ils vont se mettre en conformité et quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre. Et donc, il y a encore du travail.
Pour aider ceux qui ne sont pas encore prêts, la Fédération des entreprises belges et l'Union des classes moyennes préparent des formations. Il faut agir rapidement. L'autorité de protection des données, après une année assez souple, devrait intensifier ses contrôles dans les mois à venir. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, l'autorité de protection des données a reçu 349 plaintes de citoyens belges. Pour le moment, seule une plainte a fait l'objet d'une amende. Un bourgmestre d'une commune flamande a été sanctionné pour avoir utilisé des données de citoyens de manière abusive au cours de la campagne électorale. Du côté des autres États membres, ce sont plus de 145 000 plaintes pour violation du texte qui ont été déposées sur l'année écoulée.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.